Et bienvenue, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Shalom Bourgogne. J'ai le plaisir de recevoir Alain David, que vous connaissez bien désormais sur notre antenne, pour l'émission Très à propos. Bonjour Alain.
Bonjour Élie, merci de me recevoir.
Alors aujourd'hui, vous allez évoquer le livre de Delphine Horwiller, Comment ça va pas? Vous l'avez lu, vous avez discuté, je crois, aussi avec Madame Horwiller. Je vous laisse parler de cet ouvrage. Peut-être situer un petit peu qui est quand même un peu plus Delphine Horwiller.
En fait, je ne la connaissais pas. J'avais lu son livre, je crois, à peu près au moment de sa parution, c'est-à-dire peu après le 7 octobre. C'est un livre qui se veut être une réaction au 7 octobre, je l'avais lu d'une traite, et puis le livre a travaillé en moi, j'en ai discuté il n'y a pas très longtemps encore avec Gérard Bensussan, qui m'a dit que lui aussi l'avait lu, mais qu'il n'avait pas de souvenir particulier, et du coup j'ai voulu lui dire qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel dans ce livre, je l'ai relu encore, et finalement je me suis résolu à écrire un texte que j'ai envoyé un peu par hasard, parce que je n'avais pas ses coordonnées, mais on me les a données il n'y a pas très longtemps. Je les ai envoyées à Delphine Horwiller, qui une demi-heure après mon envoi m'a appelé, nous avons eu une conversation pour moi extraordinaire, extrêmement chaleureuse. Nous avons échangé et j'espère que tout ça aura une suite, parce que c'est ce que je voudrais surtout dire aux auditeurs. Ce livre, au-delà de son apparence modeste, est extraordinairement intuitif. Il y a énormément de choses et, dedans qui n'apparaissent pas forcément à l'œil nu, et c'est ce que je me suis efforcé de montrer et ce que je voudrais montrer ce matin aux auditeurs. Alors, ce livre de Delphine Horwiller, donc, se veut, selon son sous-titre, une œuvre d'après le 7 octobre. Je cite « Conversation après le 7 octobre ». Pour ma part, je le vois comme une succession de rendez-vous, de conversations, comme elle dit, successivement conversations avec ma douleur, avec mes grands-parents, avec la paranoïa juive, avec Claude François, avec les antiracistes, avec Rose, avec mes enfants, avec ceux qui me font du bien, avec Israël, avec le Messie. À côté de ces interlocuteurs désignés, des noms propres s'introduisent dans les discussions qu'on retrouve à la fin dans une bibliographie, et je mets « bibliographie » entre guillemets, parce que je perçois cela moins comme la preuve de l'érudition d'un ouvrage savant ou documenté que comme la convocation à la barre des témoins de personnalités venues raconter la tragédie de notre temps. Mahmoud Darwish, Elie Wiesel, Aaron Tzailin et Sholom Sekunda, Albert Cohen, Anne Sylvestre, Yehuda Amichai. Et à côté d'eux, en outre, d'autres noms apparaissent, non mentionnés dans la bibliographie, comme Kamel Daoud, caution humaniste et universaliste du monde maghrébin, ou des traces de la culture française la plus classique, Corneille, Racine, Molière, Camus, Hugo, ou cet autre non mentionné, mais je crois absolument central, Franz Kafka. Et aussi, incongru, pittoresque, incroyable, Claude François. Alors la première conversation avec ma douleur commence par une interjection yiddish introduisant dans le livre d'emblée une tonalité mytholo-europa, le shtetl d'un monde qui n'est plus, une atmosphère shalom alerem, oi brok, oi ve izmir, où le germaniste entend facilement ou croit entendre, je vais y revenir, ve izmir, etc. Peu importe, ajoute Horwiller, l'énonciation de ces formules, elle désigne la capacité, je cite, la capacité très juive de savoir se plaindre avec humour, la capacité très juive de savoir se plaindre avec humour. Mais pourquoi introduire ce folklore ? S'agit-il de prolonger le genre de la littérature du shtetl, voire une imitation française de la littérature juive new-yorkaise, voire des romans régionalistes de Carl-Émile Franzose, ou de façon plus générale, s'agit-il d'un effort maladroit pour réintroduire l'auto-attendrissement et le kitsch des littératures régionales à la Erckmann Chatrian, à la George Sand. Il s'agit certes de s'éveiller au folklore d'un monde qui n'est plus, mais aussi de tout autre chose. Je cite la Delphine Horviller. Les spécialistes le reconnaissent parfaitement aujourd'hui. Le yiddish n'est pas un langage structuré, mais une sorte de patois protéiforme, un jargon qui agglomère autant d'allemands que de russes ou d'hébreux. Puissant scotch linguistique, il trimballe avec lui tous les résultats d'une migration désespérée. Il porte les traces de tous les lieux d'où l'on s'est fait foutre dehors. Fin de citation. À ce point de la lecture, il faut, je crois, solliciter Kafka. Par-delà le kitsch du yiddish, qui finalement n'a rien du charme désuet de l'aboli bibelot d'inanité sonore, ce vers célèbre du sonnet en X de Mallarmé, le lecteur n'est-il pas renvoyé à ce texte prodigieux qu'est le discours sur la langue yiddish de Kafka? Mais le titre de Max Brod, repris par Marthe Robert, induit peut-être en erreur. Le discours tenu effectivement devant la troupe de théâtre yiddish de Yitzhak Levi, que Kafka affectionnait, ne renvoie pas exactement à ce qu'on appelle yiddish. Kafka utilise d'ailleurs le mot « jargon », « der jargon », courant certes parmi les juifs du Mitteleuropa, mais en lui conférant par-delà la nuance péjorative ou d'autodérision, une signification extravagante, en en faisant une langue sans règles, faite de mots de toutes les langues, accumulant toutes les impropriétés. Horviller précise, je cite, « Les traducteurs officiels du yiddish, même les mieux attentionnés ou les plus érudits, font toujours un flop. Les nuances du yiddish créent toujours un pas tout à fait. » Langue de l'impropriété et de l'impropre donc, qui est la mienne, du fait même qu'elle ne l'est pas et qu'elle est impossible pour moi. Et je me rappelle ici une formule de Jacques Derrida, le philosophe Jacques Derrida, « Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne. » Le yiddish, ou plutôt le jargon, patois protéiforme selon Horviller, exprime l'altérité. En cela, bien au-delà ou autrement que le fait de connoter un folklore particulier et plaisant, il est en vérité virtuel en toutes les langues. Ainsi, pour prendre un exemple grandiose de la littérature du XXe siècle, Joyce, dans ce livre illisible qu'est Finnegan's Wake et qui accumule, qui est une espèce de conglomérat forgé par Joyce, extraordinaire linguiste, de toutes les langues, des mots de toutes sortes de langues. Horviller conclut donc cette conversation ainsi. Cette conversation avec le yiddish. Depuis le 7 octobre, où que nous nous trouvions, et quels que soient nos interlocuteurs ou la situation à affronter, je pense que dans toutes les langues, il faut parler yiddish. Ne vous y méprenez pas, ce n'est pas la langue des juifs, c'est celle des hommes qui perçoivent des profondeurs du désespoir que leur humanité chancelante demande à être sauvée. S'agirait-il alors du constat de Valérie dans le cimetière marin, Sa danse secrète, dit Valérie, sa danse secrète est de moins si prochaine que tous les noms lui peuvent convenir. Le yiddish, donc, comme cette langue immanente à toutes les langues, tous les noms lui peuvent convenir. Mais la différence, c'est qu'alors que Valérie ramène la langue à son plus propre, à l'origine solaire de la manifestation, l'effet du jargon est d'instiller en chaque mot une irréductible inadéquation. Inadéquation jusqu'à quel point ? Elle va, si on peut dire, jusqu'à la mort et au-delà d'elle, pour autant que la mort est l'authenticité même, cette situation ultime où l'on ne triche pas et où surgit le proprement adéquat, ce que j'ai de plus en propre, la Jemeinigkeit, disait Heidegger, ce qui voulait dire ce qui est tellement à moi que ce « à moi » constitue l'infracassable irréductibilité du moi comme fundamentum inconcussum, comme moi infracassable, le « à la mort » qui est le propre par excellence. Pourtant, mourir, vraiment. « To die, to sleep, perchance to dream », disait Hamlet, mourir, dormir, rêver peut-être, hein. Être ou ne pas être, dit-on, mais s'agit-il bien de cela ? La question n'est-elle pas d'ailleurs du fait, de fait, bien ailleurs ? L'humour, notamment, et cette façon de ne pas se prendre au sérieux dans ce rapport à la mort, de ne pas en faire des tonnes en tenant la mort pour l'indépassable terme. Et quoi qu'il en soit de la mort, la conversation continue. Ils m'ont souri, poursuit le narrateur du grand écrivain Agnon dans un texte évoqué par Lévinas dans Nom propre, Poésie et résurrection, qui convoque deux personnages. Ils m'ont souri, donc, dit ce narrateur. Et pour cela, il convoque deux personnages de la ville dévastée par la soldatesque nazie qu'il évoque dans ce récit. Ils m'ont souri comme sourient les morts quand ils voient que nous pensons qu'ils ne sont plus vivants. Je répète cette phrase extraordinaire. Ils m'ont souri comme sourient les morts quand ils voient que nous pensons qu'ils ne sont plus vivants. La mort, dit-on. Mais la mort, quelle blague, la mort. Delphine Horviller, on sourit. On rigole même et discute et échange avec ses grands-parents disparus dans une langue désormais s'écartant de tout propre, de tout à proprement parler, avec eux qui à jamais ne sont pas là. Conversant avec les morts, elle va plus loin, les livres vont plus loin, bien plus loin, en menant l'humanité au-delà de l'essence, engageant cette conversation infinie avec les spectres, être ou ne pas être, n'est pas la question. Cette extension du domaine de la lutte donne la mesure de toutes les conversations qui suivent dans le livre, fût-ce de celles qui semblent, comme aucune autre, concerner d'abord les vivants. Les vivants. Mes enfants qui sont pour moi, pour tout moi, les plus présents, les vivants avant tout, la mort des enfants étant au contraire l'impossible, absolument irreprésentable, l'oxymore par excellence, la mort des enfants. Une conversation vraie, la vraie conversation, celle que je ne tiendrai jamais, mais qui me tient à jamais, n'est-elle pas alors celle de chaque instant que j'engage avec mes enfants, par-delà leur mort possible, impossible, plus loin que l'alternative de la vie et de la mort. Je pense ici, si poignant et irrécusable, à cela qui s'ouvre dans le Kindertotenlieder, le chant des enfants morts, le Kindertotenlieder de Rückert et Mahler. Rückert, le poète, et Mahler, donc l'immense compositeur que nous connaissons. Je cite d'abord en allemand, « Nun will die Sonne so hell aufgehen, als sei kein Unglück die Nacht geschehen. » À présent, le soleil va se lever dans cette même clarté que si nul malheur n'avait surgi dans la nuit. À présent, le soleil va se lever dans cette même clarté, dans cette clarté qui est clarté comme si nul malheur n'avait surgi dans la nuit. Sie uns nur ein, denn bald sind wir dir ferne, was dir nur Augen sind in diesen Tagen, in künftigen Nächten sind es für die, sind es dir nur Sterne. Regarde-nous, car bientôt nous serons loin, et si ce qui aujourd'hui est pour toi encore des yeux ne sera plus pour toi dans les nuits à venir que des étoiles. Regarde-nous, car bientôt nous serons loin, et ce qui aujourd'hui pour toi semble encore des yeux ne sera pour toi bientôt dans la nuit à venir que des étoiles. Vers qu'il faut bien sûr soumettre et écouter dans les déchirants accents de la musique de Mahler. L'enfant, ce moi-même comme un autre, cette ouverture douloureuse qui rend concrète l'altérité, la présence d'un irréductible passé, le « j'étais » quand j'étais petit, le « j'étais », l'imparfait qui affecte l'accompli du présent d'une indépassable nuance d'inaccomplissement, « j'étais » quand j'étais petit, et c'est maintenant. Cet enfant que j'étais, ne l'ayant jamais été quand je l'étais, et qui, parce qu'il tend à mon présent une main désespérée, l'affecte d'une irréfragable nostalgie. L'enfant encore comme l'avenir que je n'habiterai jamais, mais qui configure mon présent en lui ajoutant sa dimension spectrale. « Et maintenant je suis mort, dit le monsieur Valdemar d'Edgar Poe, en une phrase qui n'a cessé d'inspirer et, si l'on peut dire, de hanter l'œuvre de Jacques Derrida, depuis l'exergue de La Voix et le Phénomène jusqu'à, au lendemain de sa mort, l'épitaphe improbable qu'il s'était composée. Et permettez-moi de citer ici cette épitaphe incroyable de Jacques Derrida au moment de sa mort, lue après sa mort en 2004. Jacques n'a voulu ni rituel ni oraison. Il sait par expérience quelle épreuve c'est pour l'ami qui s'en charge. Il me demande de vous remercier d'être venu, de vous bénir. Il vous supplie de ne pas être triste, de ne penser qu'aux nombreux moments heureux que vous lui avez donné la chance de partager avec lui. « Souriez-moi, dit-il, comme je vous aurais souri jusqu'à la fin, préférez toujours la vie et affirmez sans cesse la survie. » Extraordinaire texte hein, qui parle dans ce texte, lui venant d'outre-tombe. Radical sourire de la déconstruction, et à nouveau, il faut penser à cette phrase incroyable d'Agnon, comme sourient les morts quand ils voient que nous pensons qu'ils ne sont plus vivants. Discussion menée non pas avec les morts, mais par-delà la mort, et en dépit de la mort qui n'est pas la question. Récit pareillement stupéfiant de ce personnage Adi Bundren, la mère morte qui parle depuis son cercueil dans l'hallucinant cortège funèbre de As I Lay Dying, tandis que j'agonise, le grand roman de Faulkner. Ou encore cette confidence du narrateur qui énonce vers la fin du temps retrouvé dans la recherche du temps perdu, ce qui est peut-être en effet la clé de la recherche. Car je comprenais que mourir n'est pas quelque chose de nouveau, mais qu'au contraire, depuis mon enfance, j'étais déjà mort bien des fois. Cette phrase, je dois dire, personnellement, quand je l'avais lue, m'avait bouleversé. La discussion de Delphine Horviller avec ses enfants, qui semble se figer sur un « tu n'as rien de mieux à faire » initial, résonance de la banalité du présent, donne très vite aux questions de l'enfance, les « pourquoi », les « il était une fois », un tour particulier. Pourquoi ? Pourquoi est-ce ainsi et non pas autrement ? Pourquoi moi ? Pourquoi le monde ? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, demande le philosophe, prolongeant sans les entendre les questions de l'enfance. Mais déjà Heidegger, appelant à la ressource, à la rescousse, pardon, la parole du poète mystique Angelus Silesius, prétend recueillir leur vraie tonalité. La rose est sans pourquoi, dit Angelus Silesius. Elle fleurit en fleurissant, dit Rose ist ohne warum, sie blüht, weil sie blüht. La rose est sans pourquoi, elle fleurit en fleurissant. Concluant peut-être à la manière de Goethe, la phrase de Goethe, Verweil doch, du bist so schön, c'est dans Faust. Hein. Faust sera sauvé au moment où le diable pourra dire ceci. Au moment où le diable ou Méphisto l'amènera à dire ceci, Verweile doch, du bist so schön, instant dur, tu es si beau, que tout le poids de la question réside dans le weil, le mot allemand weil, qui ne fait pas que rendre raison, weil en allemand courant voulant dire, selon le dictionnaire, parce que, hein, weil, mais relaye le verweilen, la stase du présent, où s'engouffre la splendeur de l'ouverture propre à l'instant. Par exemple, je citais tout à l'heure le grand poème de Valéry, le cimetière marin. Midi le juste y compose de feu la mer toujours recommencée. Midi le juste y compose de feu la mer toujours recommencée. Pourtant, il est à cela même encore une objection, celle infiniment plus violente que l'attitude d'Alexandre tranchant le nœud gordien, la réponse faite à Primo Levi dans « Si c'est un homme ». Vous vous rappelez, Alexandre, à qui on présente ce nœud indéfaisable, et au lieu de, comment, d'essayer de le défaire, il tranche d'un coup d'épée. Et c'est au fond ce que l'homme d'action peut opposer à la subtilité des concepts. Trancher d'un coup d'épée, voilà, c'est comme ça, la brutalité de l'action. Mais on pense ici, et je pense ici, à cette phrase rapportée par Primo Levi dans « Si c'est un homme », au moment où il y a Primo Levi veut s'emparer d'un glaçon qui pend à la fenêtre, d'un stalactite qui pend à la fenêtre pour étancher sa soif, et il y a une brute qui lui arrache le glaçon avec lequel il voulait se désaltérer, et il demande mais pourquoi, warum, pourquoi? Et l'autre répond brutalement: here is kein warum. Ici, il n'y a pas de pourquoi. L'interjection qui interrompt la splendeur poétique de l'extase temporelle du monde. Ici, il n'est plus ni de durée, ni d'ouverture, ni de verweilen. Vous savez, le verweilen donc de Goethe, verweile doch, du bist so schön, instant dur, tu es si beau, ni de verweilen, ni de monde, ni de poème. Ici, c'est le camp qui n'est même pas un ici, qui est un non-monde, non plus pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, mais, et c'est la phrase, c'est la question que déploie Delphine Horviller devant ses enfants, pourquoi, en relayant les pourquoi de ses enfants, pourquoi l'antisémitisme? Dans la raison sans raison de l'antisémitisme, il était une fois, ne vaut pas. Il n'y a plus une fois comme monde, mais cette fois, qui ne connote ni le ici, ni le là, ni ceci, ni cela, en latin, ne uter, ni ceci, ni cela, le neutre, qui dans, ne uter, le neutre, qui dans la langue de Maurice Blanchot, est néanmoins le marqueur de toute littérature, non la merveille du surgissement, mais ce qui, dans la langue des enfants, par-delà l'apparition de la silhouette yiddishisante de Peter Schlemihl, qui ont convoqué aussi dans le livre de Horviller, de Peter Schlemihl, figure récupérée par un grand écrivain allemand qui émigrait de la France après après la révocation de l'édit de Nantes, qui fait partie de ces Huguenots, de ces Huguenots réfugiés en Allemagne et dans la région berlinoise, Adalbert von Chamisso, comme celle, Peter Schlemihl, donc, figure de ce personnage qui, ayant perdu son ombre, ne se projette plus dans le monde, qualifiant cela une absence radicale au monde. Et ici, je voudrais citer encore Malheur, encore... je voudrais citer encore Malheur, encore Rückert, Ich bin der Welt abhanden gekommen, étrange tournure, même en allemand, notamment en allemand, étrange tournure qui dit « je suis devenu absent au monde, je ne suis plus dans le monde, je suis par rapport au monde comme une absence. Ich bin der Welt abhanden gekommen ». Et ceci, c'est également le titre d'un lied, d'un chant repris par Malheur. Je traduis dans la langue des enfants, Pitchipoy. Vous savez, Pitchipoy, cette autre langue, celle des enfants en route vers les camps, n'est-ce pas, dans les à Drancy, à Beaune-la-Rolande, etc. Pitchipoy était devenu ce pays imaginaire où l'on allait, pour lequel on allait s'embarquer, mais sans savoir tout à fait qu'on allait s'embarquer pour l'horreur. Pitchipoy. Ou encore plus simplement, dans la conversation, dans cette conversation que Delphine Horviller mène avec ses enfants, l'antisémitisme. Il était une fois l'antisémitisme. Alors, entre tous les rendez-vous introduits dans son livre, le rendez-vous avec Rose, chapitre qui s'intitule Rose. Le rendez-vous avec Rose me semble le plus insolite ou peut-être le moins apparemment nécessaire. L'accompagnement des mourants, la partie très dure de son office de rabbin, en quelque sorte, si on peut dire, 24 heures avec une femme rabbin, 24 heures dans la vie d'un rabbin, 24 heures avec une femme rabbin, dans la prise en charge de la mort, la version, si on veut, la version religieuse des soins palliatifs. Pourtant, dans le récit d'Horviller, deux événements interviennent qui accidentent le tracé de cet accompagnement. D'une part, le 7 octobre, je cite, et puis est arrivé, donc toujours Horviller dans sa conversation, cette fois-ci avec cette femme inconnue, Rose, et puis est arrivé le 7 octobre, nous est arrivé le 7 octobre, et la mort nous a percutés violemment, mais pas tel que nous l'attendions. L'histoire juive nous a rendu visite autrement, avec ses deuils et ses fantômes, et le sentiment de prendre de plein fouet la réverbération du passé. Il n'était plus question de la mort de Rose, mais de celle d'un monde. Fin de citation. D'autre part, le second événement, superposé à la conversation avec Rose, est celui d'une phrase... Cette interpellation par un inconnu lors d'un office pour un ami mort. J'imagine que cela n'a pas dû être facile pour vous. Voilà la phrase. Hein. J'imagine que cela n'a pas dû être facile pour vous. Une phrase banale, presque de convenance, et qui, comme on dit, ne tire pas ou n'aurait pas dû tirer à conséquence. La réponse attendue ou sous-entendue étant non, ce n'était pas facile, mais... « Que voulez-vous ? Voilà, c'est comme ça, on fait avec, etc. etc. » Ça n'a pas dû être facile. Mais que veut dire facile ? La facilité réside dans le fait de s'y retrouver. Le fait que l'événement n'aurait finalement rien bouleversé d'un monde contemplé et maintenu à distance, préservant l'intégrité du « moi ». La difficulté, au contraire, le vrai changement serait quand, tout étant bouleversé, il n'y aurait plus pour le moi de ici et de là-bas, de ici où il séjourne et de là-bas qui est le monde devant lui. Donc le fait qu'il n'y ait plus de monde. Je cite Horviller. Je venais de retrouver mon absolu dénuement. La pleine vulnérabilité de celui ou celle qui, à l'enterrement d'un proche, n'a rien d'autre à faire que de le pleurer. Absolument rien d'autre à faire. Femme que la mort visite, en conversation avec une femme que la mort visite, dussé-je traverser la vallée de la mort, je n'aurais pas peur, parce que tu serais avec moi, dit le verset. Delphine Horviller, Rose, deux femmes que la mort visite, et en cela même par-delà l'alternative de la vie et de la mort. Dès lors, qui sont-elles? Qui est Delphine Horviller qui converse avec Rose? Qui est Rose, personnage insolite au seuil de sa mort, virtuellement morte, ne communiquant, dit Horviller, que par le biais d'une machine qui lui prête la voix mécanique d'un GPS. Intrigué par ce personnage, j'ai relu le portrait qu'en donne Delphine Horviller, un personnage sans voix, sans visage, sans autre identité sociale que son nom, Rose, sans autre caractéristique que cette indication. Rose va bientôt mourir, elle se sent tout au bout du chemin, atteinte d'une maladie qui, je cite encore Horviller, qui fait frissonner les gens dès qu'on prononce son nom, sclérose latérale amyotrophique. Sclérose latérale amyotrophique. À ma première lecture du livre de Delphine Horviller, j'ai frissonné certes, mais devant le nom courant du mal qui atteint Rose, la maladie de Charcot. Passant très vite ce chapitre, passant aussi ensuite à la description des symptômes terribles que rappelle Delphine Horviller, vérifiant sur Wikipédia le tableau clinique de cette terrifiante pathologie, découvrant l'abréviation médicale de SLA, que sans doute son habillage scientifique rend moins redoutable parce que livré au savoir médical que le nom courant et définitif de maladie de Charcot qui résonne comme un destin. Et puis ce nom, à la deuxième ou troisième lecture, m'a remis en tête un souvenir lointain, l'emploi par Lévinas de cette même mise en scène, de cette même dénomination scientifique dans sa présentation de l'œuvre de Rosenzweig, Franz Rosenzweig, qui est l'un des philosophes les plus considérables du XXe siècle, un des penseurs du judaïsme, un extraordinaire penseur du judaïsme, Franz Rosenzweig, avec son grand livre qui s'intitule « L'étoile de la rédemption ». Der Stern der Erlösung, l'étoile de la rédemption. Alors à la page 293 de Difficile Liberté, ce livre de Lévinas que vous trouvez en poche, que je ne saurais trop recommander à tous les auditeurs de Radio Shalom de lire, c'est un livre de poche, ce sont des petits chapitres très facilement lisibles qui ne supposent pas une compétence philosophique, c'est un livre pour tous. Alors, à la page 293 de Difficile Liberté, dans un chapitre où il présente l'œuvre et la vie de Franz Rosenzweig, Lévinas écrivait ceci. S'il y a des médecins dans cette salle, ils sauront mesurer la gravité du mal qui frappe Rosenzweig. Il est atteint à 34 ans d'une sclérose latérale amyotrophique avec paralysie bulbaire progressive. Puis, Rosenzweig a pu vivre 8 ans avec cette maladie, mais il a été très vite immobilisé et privé de parole. On avait fabriqué pour lui permettre de communiquer et même d'écrire un appareil spécial qui lui permettait d'indiquer d'un signe à peine perceptible et que seule sa femme savait voir les lettres qui traduisaient sa pensée. 8 ans de maladie, précise encore Lévinas, qui furent 8 ans d'efforts intellectuels, d'études et même de joie, malgré la séparation dès le début presque totale de l'âme d'avec le corps. Le contact avec ce mort se transforme en tendresse et affection. Dès lors, une hypothèse de lecture ou de lecteur. Et si Rose était ici une abréviation pour Rosenzweig? Rose, l'introduction dans le récit de ce que représente Rosenzweig. Il n'y a pas de Rose, comme il n'y a pas de Hajar, pour reprendre la formule, le titre d'un livre de Delphine Horviller, il n'y a pas de Rose comme il n'y a pas de Hajar, ou plutôt il n'y a que Rose comme la clé de tous ces fabuleux rendez-vous auquel se rend Horviller. Conversation avec un mort, par-delà sa mort, par-delà le silence auquel sont astreints les morts, donnant du fait de cet extraordinaire GPS, réplique fantastique de la machine dont usait Rosenzweig, une orientation dans la vie. Calcul de votre nouvel itinéraire en cours. C'est la dernière phrase du chapitre sur Rose de Delphine Horviller, qui, comme le ferait par-delà toute vie ou tout être vivant, le ferait la machine, le GPS. Calcul de votre nouvel itinéraire en cours pour s'orienter, si vous voulez, dans la vie et dans la pensée. Le méta de Rosenzweig, chez Franz Rosenzweig, il y a constamment le mot méta, mais qui s'ajoute à tous les concepts, métalogique, méta-connaissance, etc. Méta qui veut dire au-delà en grec, c'est le mot grec pour dire au-delà. Le méta de Rosenzweig confrontant toutes les déterminations du concept à l'épreuve de la mort. Femme que la mort visite, parlant à une autre femme que la mort visite, je reprends les formules de Delphine Horviller, conversation de spectre, ce qu'est peut-être toute vraie conversation. Un autre spectre, plus improbable que n'importe lequel, est celui qui surgit dans le livre de Delphine Horviller sous le nom de Claude François. Un tube, deux tubes, successivement convoqués, Donna Donna, et ça s'en va et ça revient. Un tube, une chanson, c'est-à-dire des signifiances sans signifier, traverse le lexique d'une société en y inscrivant des mots qui, du fait de l'intonation selon laquelle ils se donnent, n'épuisent pas leur portée dans des référents et demeurent indéfiniment disponibles et répétables en suspens comme autant d'énigmes flottant dans l'espace sémantique. Alors je le dis de façon un peu compliquée ici, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir des chansons parfaitement niaises, parfaitement insipides, hein, et qui cependant ont un sens. Hein, quand Johnny dit « que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime », hein, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime », bon, le sens n'est évidemment pas dans le référent, dans le contenu, dans l'intelligence du texte. Une chanson, c'est ça, c'est une façon de mettre en suspens le rapport des mots, le rapport ordinaire des mots au référent. Et la chanson peut être purement niaise, elle parle tout autrement. Ainsi, dans le cas de Donna Donna, il était une fois un petit garçon qui vivait dans une grande maison. Sa vie n'était que joie et bonheur, et pourtant, au fond de son cœur, il voulait devenir grand, rêvait d'être un homme. Chaque soir, il y pensait, quand sa maman le berçait. Donna, 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 tu regretteras le temps. Donna, 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 où tu étais enfant. Voilà, vous avez, enfin, les plus de 50 ans ont ça en tête, les autres je ne sais pas, mais enfin si Claude François reste quand même. Niaiserie sans mesure de cette chanson qui cependant, même dans son caractère insipide, évoque ce qui était déjà en cause dans la conversation avec les enfants, ce rapport aux questions essentielles posées par l'enfant absent que je porte en moi. Et bien sûr, il y a ici encore autre chose, le référent ignoré du public des fans de Clo-Clo, présent pourtant dans la mélodie et dans le refrain Donna Donna. Donna Donna, le yiddish de la chanson, de cette chanson de 1941, chanson pour enfants également, mais plus poignante, plus déchirante encore que le Knaben Wunderhorn, le corps enchanté du petit garçon, ce recueil de comptines, de poèmes et de chants réunis par le grand écrivain allemand Achim von Arnim du 19e siècle, par Clemens Brentano, puis par les frères Grimm, autant d'écrivains allemands de l'époque du romantisme. Par exemple, cette berceuse, encore couramment chantée en Allemagne, et qui en appelait à la cruauté de la guerre de 30 ans. Moi-même, je l'avais découverte quand, enfant, J'allais en Allemagne dans un home d'enfants, dans un Kinderheim, et j'avais découvert avec une certaine stupéfaction cette chanson qui continue à être une berceuse. Flick, Mike Effer, Flick, dein Vater ist im Krieg, deine Mutter ist im Pommerland, Pommerland ist abgebrannt, Flick, Mike Effer, Flick. Ce qui veut dire vol à ton vol. Ton père est à la guerre, ta mère est en Poméranie, la Poméranie est brûlée. Vous rendez compte du texte d'une chanson pour d'une berceuse pour enfants qui a toujours cours. Hein. En 1941, dans le cadre de la Pologne encore, la Poméranie c'est la Pologne, la cruauté a un autre accent, celui de la plainte juive d'un petit veau, dos Kolbele, attaché sur la carriole du paysan et en route pour l'abattoir, plainte à laquelle le paysan répond « Mais pourquoi tu es un veau? Tu n'avais qu'à être un oiseau ?» Ceci donc à nouveau en Pologne, mais exposé dans un yiddish faisant écho à la terrible universalité de la Shoah. Comment alors passe-t-on sans un sentiment de sacrilège de la pièce de théâtre « Esterke » de Zeitlin en 1932, puis cette pièce qui sert de cadre à la chanson dans laquelle on va trouver la chanson yiddish de Aaron Zeitlin et Shalom Secunda de 1941. Comment passe-t-on de là à Claude François? Je trouve une réponse en convoquant à nouveau le discours sur la langue yiddish de Kafka qui livre une explication extravagante, mais qui semble avoir guidé Delphine Horviller jusque dans sa lettre. « Ce qui provient du yiddish, du jargon, écrit Kafka, langue radicalement inappropriable et donc au contenu irréductible à n'importe quel exposé ou explication, reste inaccessible. Das, je cite le texte, d'abord en allemand, « Das, was wirklich da sein wird, werden Sie nicht sehen. » Ce qui effectivement sera présent, vous ne le verrez pas. Et pourtant, je recite le texte de Kafka, « Par bonheur, tout germanophone est en mesure de comprendre le jargon, car vu de très loin, l'intelligibilité du jargon est constituée par la langue allemande, ce qui représente son avantage sur toutes les autres langues de la Terre. Elle a pourtant, en une contrepartie justifiée, un désavantage. On ne peut pas, en effet, traduire le jargon en allemand. Les liens entre le jargon et l'allemand sont si fragiles, si étroits, qu'ils seraient déchirés si on voulait transcrire le jargon en allemand. Autrement dit, ce ne serait plus le jargon qui apparaîtrait en allemand, mais quelque chose qui serait privé de consistance. » Je reprends le texte, je cite le texte là, de nouveau, dans son allemand particulier. « Durch Übersetzung ins Französische zum Beispiel » Kann Jargon den Franzosen vermittelt werden? Durch Übersetzung ins Deutsche wird vernichtet. Par la traduction du jargon en français, par exemple, le jargon peut être livré au français, par sa traduction en allemand, il est anéanti. Et c'est un passage extraordinaire. Hein, ce que Kafka explique, ou affirme, et c'est assez incompréhensible d'ailleurs, si on y réfléchit, que tous ceux qui sont compétents en allemand, tous les germanophones, comprennent le jargon. Et en revanche, on ne peut pas traduire le jargon. Alors, à chacun de comprendre ou d'expliquer ce qui est inexplicable, comment ce qui est peut-être compris, en même temps, ne peut pas être traduit dans la langue de celui qui comprend. Et en revanche, et c'est là le point fabuleux aussi de ce texte, en revanche, ça peut être traduit en français. Ça ne peut pas être traduit en allemand parce que le jargon est trop proche de l'allemand, mais ça peut être traduit en français. Comprenne qui voudra. Phrase extravagante que l'on peut à l'infini gloser sur ce privilège arbitrairement proclamé du français. C'est cependant elle que Delphine Horviller semble appliquer très littéralement en introduisant Claude François dans l'extraordinaire parcours de son livre. Conversation avec Claude François. De nouveau, conversation avec un mort. Avec qui plus est, un mort qui incarne jusque dans sa façon idiote de mourir, tué par un séchoir à cheveux, comme aucun autre, l'insignifiance du quotidien, ou si l'on veut, la frivolité française. Oui, il faut peut-être que je rappelle pour les moins âgés d'entre nous que Claude François est mort dans son bain, apparemment tué par le séchoir à cheveux qu'il avait laissé tomber dans la baignoire. Voilà. Après, on peut gloser à l'infini sur cette mort, peut-être même suspecter un crime caché, mais c'est le folklore de cette mort. Alors, donc, cette façon idiote de mourir, tué par un sèche-cheveux, comme aucun autre, il incarne l'insignifiance du quotidien, ou si l'on veut, la frivolité française. Recueille-t-il dans ses chansons, dans son style, dans sa voix même, sa voix de Crécel au jugement de Nicoletta, une voix comme son prénom au genre indécidable, hein, Claude, ça peut être masculin ou féminin, c'est indécidable, son nom identifiant en revanche la langue qui dit Kafka est capable de donner hospitalité au jargon, François, français, François. Hein. Claude François a une autre chanson de qui Delphine Horviller consacre un second chapitre improbablement orienté par l'explicitation de la portée du vave conversif. Alors tous les hébraïsants que je ne suis pas moi-même savent ce qu'est le vave conversif qui peut tantôt désigner la cause ou tantôt l'effet et qui se met en chanson que Delphine Horviller traduit dans la chanson où il, comme une illustration du vave conversif, de cette propriété extraordinaire du vave conversif, ça s'en va et ça revient, ça s'en va et ça revient. Mais quoi qui s'en va et qui revient? Eh bien, l'antisémitisme. L'antisémitisme. Et ici, cette citation de Lénine que m'a donné Gérard Bensussan, éternellement nouveau, l'antisémitisme, dit Lénine. Lénine, Claude François, ou bien encore Claude François de Rechef, comme Descartes écrit dans les méditations, dans la cinquième méditation, de Dieu de Rechef qu'il existe. Claude François de Rechef, avec une chanson que ne cite pas Delphine Horviller et qui est cependant une référence implicite au mal-aimé, à Apollinaire. Je suis le mal-aimé. Je suis, alors vous rappelez, je suis le mal-aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Mais ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi. Voilà, ça c'est Claude François. Le mal-aimé d'Apollinaire, c'est encore autre chose. Hein. La chanson du mal-aimé, cet immense poème d'Apollinaire. Moi qui sais des laits pour les reines, la romance du mal-aimé, des chansons pour les sirènes, etc. etc. Donc Apollinaire, le schlemil, le schnorreur, qui introduit le judaïsme dans le français de sa merveilleuse poésie. Alors faisons le bilan de ces multiples rendez-vous. Il se résume dans le titre « Comment ça va pas ?» Comment ça va pas et non pas comment ça ne va pas. Comment ça va pas? En apposition silencieuse à comment ça va, l'écho de cette blague juive relatée par Delphine Horviller au début du livre. Je cite, mais dis-moi Moïché, que deviens-tu? Comment ça va? Et sans trop réfléchir, Moïché répond, bien. Mais sérieusement Moïché, dis-moi davantage, comment ça va? En deux mots. En deux mots, pas bien. Et au fond de la réponse juive, donc, le bien de la réponse convenue se ramène à l'autre réalité d'un pas bien. De même, dans cette anecdote relatée par Shlomo Malka de Lévinas, au jury d'une importante soutenance de thèse du philosophe américain Richardson, qui deviendra par la suite une autorité sur la pensée du philosophe de la forêt noire de Heidegger, Malka raconte, page 174 de sa biographie de Lévinas, comment Lévinas, durant le cocktail qui suit la soutenance, interpelle Richardson en lui tapant sur l'épaule. Richardson se retourne pour le remercier de sa participation et de ses remarques. Et Lévinas de répliquer. Je parlais justement de votre livre avec de vieux amis en les faisant rire. J'ai pensé que vous seriez intéressé de savoir pourquoi nous rions. Vous vous rappelez ce moment dans votre livre où vous dites « L'année 1943 fut une année très prolifique ». Eh bien, en 1943, mes parents étaient dans un camp de concentration et moi dans un autre. C'était une année vraiment prolifique. Ayant dit cela, Lévinas tourna les talons et disparut. Anecdote où le « ça va bien » de la vie quotidienne s'ouvre pour le professeur juif sur un « ça va pas bien » sous-jacent. Un « ça va pas bien » marqué par l'impossibilité par excellence, celle de la Shoah, qui empêche la vie pour un juif de se dérouler selon le cours tranquille des convenances académiques. Mais cette réponse ne marque-t-elle pas toute vie, au-delà des conventions qui font que ça va bien. Soit ici un autre poème intitulé justement « La conversation » de Jean Tardieu, qui ajoute à son titre ceci, donc, « Sur le pas de la porte avec bonhomie ». Comme si on n'était pas toujours sur le pas de la porte et avec bonhomie. Hein. « Sur le pas de la porte avec bonhomie ». Comment ça va sur la terre ? Ça va bien ? Les petits chiens sont-ils prospères ? Mon Dieu, oui, merci bien. Et les nuages ? Ça flotte. Et les volcans ? Ça mijote. Et les fleuves ? Ça s'écoule. Et le temps ? Ça se déroule. Et votre âme ? Elle est malade, le printemps a été trop vert, elle a mangé trop de salade. Alors, c'est un poème pour les enfants. Mes filles avaient appris ça. C'est comme ça que je l'ai découvert, d'ailleurs, le poème. Ça va bien, en réponse à toutes les questions d'enfants, lesquelles s'ouvrent cependant sur un trop. Il a mangé trop de salade, le printemps était trop vert, il a mangé trop de salade. Sur une maladie de l'âme, sur le récit de Pitchipoy. Ça va et ça va pas. Faute grammaticale peut-être inhérente au fait qu'il s'agit moins d'évoquer tout ce qui ferait obstacle au ça va de l'ordre du monde que de se rendre attentif à cette imperceptible claudication de la langue. Vous savez, claudication, vous savez aussi la lutte de Jacob avec l'ange. Et Jacob ressort de cette lutte en boitant, atteint d'une claudication essentielle. De cette claudication de la langue, au-delà ou plutôt en deçà des faits, des accidents inhérents à un ordre des choses ou à un déroulé de la vie pour lequel ce qui est toujours le résultat d'un travail du négatif, identité, disait Hegel, de l'identité et de la non-identité. Car l'usage grammatical, la bonne correction de la grammaire est, comme l'entendait Aristote, le reflet d'une vérité logique et ontologique. Le solécisme ici est l'indice, certes d'une inconvenance, mais aussi, si l'on veut, d'un tout autre registre de la vérité, d'une autre signification de la négation, non pas ce trajet dialectique vers l'affirmation, mais d'emblée, tel un fait, l'affirmation elle-même, non pas la lente construction d'un présent s'affrontant à ce qui manque, à la mort et au temps, de sorte que ne pas être est la dure condition de l'être dans la perspective téléologique finale, d'un accomplissement final, mais une affirmation dans le caractère inaccompli de cette dernière, tel un achèvement d'inachevé, dans la monstruosité de ce qui s'affirme. La désinence allemand « un » dit cela. Ainsi, en allemand, « wesen » désigne l'essence. « Un wesen » ne signifie pas le défaut d'essence ou d'essentialité, mais la positivité d'un monstre. « Un wesen » c'est un monstre. Hein. « Un wesen » c'est un monstre. Et ainsi encore, « Kraut » est la plante. « Un Kraut » n'est pas une non-plante, mais la mauvaise herbe qui ne rentre dans aucun classement, mais qui est néanmoins une plante. ça va pas ne connote pas un manque ou un défaut par opposition à une réalité où ça irait, mais est la réalité même en deçà de tous les ça va bien, quoi qu'il en soit des occurrences du monde, de tous les jeux de la présence et de l'absence, de l'être et du ne pas être, et donc une affirmation de ce que je suis, monstre sans nulle place dans le monde. Une négation, une affirmation, par rapport à quoi être ou ne pas être n'est pas la question. Tout ce que, il faut donc y revenir, j'y reviens, relayait à même la langue le discours de Kafka, je cite Kafka, donc, le jargon, il, le jargon, n'a pas de grammaire, les amoureux du jargon s'efforcent de lui en écrire une, mais le jargon n'est que parler, il n'est jamais en repos, le peuple ne l'abandonne pas aux grammairiens. Je voudrais donc entendre ainsi, dans l'admiration humble de ma lecture, la signification du « comment ça va pas » de la faute de grammaire de Delphine Horviller, celle du yiddish au sens de Kafka, langue qui n'est pas la mienne, comme le propose Derrida, ce n'est qu'une langue et ce n'est pas la mienne, langue qui n'est pas la mienne, comme le propose Derrida, langue d'une écriture placée sous le signe de l'altérité, commandant et orientant ses multiples rendez-vous avec des absents, souriant, comme sourient les morts lorsqu'ils voient que nous pensons qu'ils ne sont plus vivants. La conversation avec des morts, morts du 7 octobre, morts qui viennent hanter chacune de nos vies et habitent les récits multiples qui animent une histoire juive élevée à la dimension d'une histoire spectrale de l'humanité.
Merci Alain David pour cette lecture, peut-être un hommage à ce livre de Delphine Horviller.
Alors mon texte est sûrement, mon propos est sûrement difficile. Il demande à être lu, relu, mais surtout il est une invitation à se plonger, à ne pas se séparer, à se plonger de façon continue dans le livre de Delphine Horviller qui dit des choses extraordinaires pour notre temps. Avec l'indécision, le caractère insaisissable de ce qu'on appelle antisémitisme, derrière quoi il faut situer le caractère insaisissable de ce qu'est la question juive. Dans son universalité, comme conversation avec les morts.